bonjour à tous. Toujours en compagnie de Christian Battaglia de l'association Bretagne Circus, quatrième rencontre au sein du Cirque Bouglione. Joël Red est chargé des relations publiques et médias au cirque et à l'écouter, on sent toute la passion qui l'anime. Le cirque, il le connaît bien, mais il a connu quantité d'autres chemins, une vie passionnante, pleine de rencontres. On va poursuivre nos entretiens dans le cadre de la venue du Cirque Bouglione à Nantes et nous sommes donc sous le chapiteau en compagnie de Joël Red. C'est bien comme ça, Joël ? Bonjour, Joël.
Oui, bonjour. Oui.
La prononciation est bonne. Alors, on a eu précédemment trois artistes. Hein. Maintenant, on va voir, c'est un autre artiste de l'ombre, puisque vous êtes chargé des relations aussi avec la presse. On va vous demander exactement ce que vous faites. Et puis, on ira un peu plus loin dans la discussion, parce que vous faites ce métier-là. C'est aujourd'hui chez Bouglione. Mais je crois que vous avez aussi un autre métier. Puis, vous avez aussi des antécédents dans votre famille. Le cirque, ce n'est pas une passion qui vous vient d'aujourd'hui. Et ça sera aussi intéressant d'en savoir un peu plus avec vous dans quelques instants, Joël. Christian.
Oui, alors, chargé de communication, en quoi consiste ce travail ?
En fait, c'est un titre qui englobe beaucoup de choses. Je m'occupe sur la tournée, donc des partenariats, donc soit les partenariats avec Office de Tourisme, la ville. On crée souvent aussi de très beaux partenariats avec les grandes équipes sportives, les équipes de foot, de hand, de volley, de hockey sur glace, par exemple. Des partenariats avec telle ou telle enseigne de restauration. Des partenariats avec des clubs de fitness, parce que ça rejoint, par exemple, certains de nos artistes qui peuvent aller s'entraîner dans ces clubs de fitness, par exemple, avec les parcs de loisirs. Donc ça, c'est une chose. La deuxième facette de mon travail, donc, c'est le côté communication. Donc autant communication donc, pour les plans de campagne publicitaire que pour les plans de campagne rédactionnelle. Donc là, ça peut être soit les grands quotidiens locaux, soit les radios locales, comme Radio Alternante, on peut avoir...
Juste un instant. Joël, ça c'est un travail qui se met en place bien avant. Là même, avant de revenir sur ce que je voulais dire, pardon, c'est on pourrait imaginer que vous soyez dans le bureau parisien, par exemple, mais là vous êtes sur la tournée.
En fait, nous avons la même direction, donc Bouglione, et ça c'est vraiment bien. Par contre, nous sommes deux compagnies complètement différentes. Le Cirque d'hiver à Paris, c'est une entreprise. Le Cirque Bouglione en tournée, c'est une deuxième entreprise. Et moi, je m'occupe uniquement de ce travail sur la tournée. Ce que je voulais vous dire, là, quand on a été coupé tout à l'heure, c'est qu'en plus donc, des quotidiens, des TV, des radios, j'essaye aussi, et donc avec succès également, de créer des partenariats avec les webzines, ce qu'on appelle donc, les magazines sur le web, ou les blogs. Il y a souvent dans chaque ville deux ou trois grands blogs, qui sont très intéressants et je les invite comme des journalistes en quelque sorte.
Oui, donc il y a tout un... C'est un travail énorme quand même.
C'est un énorme travail, c'est 10 à 12 heures par jour de travail. Mais c'est très plaisant, c'est un travail d'acharné, mais c'est plaisant, c'est agréable. Les gens sont très sympathiques avec nous. Et quand les gens après sont invités et viennent au spectacle, alors on tisse vraiment des liens au-delà du professionnel. Parce que si vous faites un partenariat et que d'un côté, vous avez en face de vous, vous avez le partenaire, vous avez le bureau entre nous deux et puis moi d'un autre côté, ça c'est du partenariat professionnel, j'aime pas du tout ça. Moi le partenariat, on élimine le côté bureau et on tisse vraiment des liens de sympathie. Et après, vraiment, on peut avancer ensemble et on arrive à créer quelque chose de formidable et de beaucoup mieux que ce qui s'arrête, que si ça s'arrêtait strictement à un niveau professionnel.
D'accord, Christian.
Et qu'est-ce qui vous a amené à ce type de travail ?
Alors, en 2015, à peu près en même temps que les Bouglione sont repartis en tournée, en février, Francesco Bouglione m'a téléphoné à la maison. Et j'étais déjà sur un autre poste sans rapport avec le cirque. Hein. Et il m'a demandé, il me dit, tu sais, on est reparti en tournée. Est-ce que ça t'intéresse de t'occuper de nos relations presse, relations publiques sur la tournée ? Alors je lui dis, ben, écoute Francesco, je ne sais pas, pour le moment je suis déjà engagé avec une grande entreprise nationale, il faut que je réfléchisse. Il me dit, écoute, tu montes la semaine prochaine à Paris, on se voit au Cirque d'Hiver, on parle ensemble, tu décides. Je suis monté, je suis resté. Et c'est formidable et je suis franchement très content d'être avec les Bouglione parce que non seulement c'est une bonne famille, c'est une famille riche historiquement, c'est une vraie dynastie, c'est-à-dire ça fait 170 années qu'ils sont toujours ensemble. Ce n'est pas une dynastie sur le papier, c'est une dynastie authentique parce qu'ils sont toujours ensemble et c'est une entreprise de qualité et il y a matière pour pouvoir présenter aux journalistes. Il y a tellement d'exclusivité ici, soit du côté technique, soit du côté pratique, soit du côté artistique, que vraiment c'est quelque chose de haut de gamme, comme j'ai pu faire dans mes anciens métiers. Vraiment, c'est génial de travailler ici.
Alors, vous le disiez, les Bouglione vous appellent. S'ils vous appellent, c'est qu'ils vous connaissent et c'est que vous avez aussi des antécédents dans le monde du cirque, hein.
Alors, ils me connaissaient parce que, en fait, si on repart 62 ans en arrière, je suis né dans le milieu du cirque. Du côté maternel, mon grand-père était directeur de cirque avec les ancêtres Grus, Alexis Grus senior et Dédé Grus. Ils étaient les trois patrons d'un très grand cirque de l'époque qui a eu plusieurs enseignes comme le Radio Circus, comme le Cirque Zoo Jean Richard, comme le Grand Cirque de France. C'était donc la société Grus-Janet qui englobait ça. Et du côté maternel, mes ancêtres, mon arrière-grand-père, est déjà son père et avant. Moi, j'ai retrouvé des archives jusqu'à peu près 150 ans en arrière, donc du côté Janet. Ils étaient dompteurs et ils avaient une des plus grandes et une des plus belles ménageries de l'époque en Suisse, qui est venu en France dans les années 1900-1920, qui est resté en France. Et c'est pourquoi mon grand-père s'est retrouvé en France et a connu Alexis Grus senior dans sa jeunesse. Et après, bon, l'histoire, donc c'est ce que je viens de dire. Et du côté paternel, c'était également dans un milieu d'artistes parce que ma famille, je suis moitié français, moitié danois. Et ma famille du côté danois, donc du côté des Reds, c'était des grands musiciens internationaux dans le classique.
Christian ?
Et pourtant, vous n'avez pas travaillé d'emblée dans le monde du cirque ?
Ben pas du tout, je suis né donc au cirque en quelque sorte, hein, un 14 février. Et je suis resté au cirque pendant mon enfance, quand mon grand-père y était encore, quand mes parents y étaient encore. Quand ce cirque a arrêté dans les années 70, en fait mon père avait fait des... j'essaye de raccourcir parce que c'est une histoire, on pourrait écrire un vrai roman. Mon père était ingénieur électronicien en même temps. C'était un grand musicien, c'était un virtuose international qui a eu une carrière internationale sur tous les continents, enfin qui a fait des disques, la télé, enfin etc. Et il est arrivé dans l'univers du cirque parce qu'il a été engagé à l'époque à RTL, qui s'appelait Radio Luxembourg. Et à cette époque-là, dans les années 50-60, Radio Luxembourg avait un orchestre symphonique, à eux, en interne, un big band, un orchestre de variété. C'était extraordinaire, ce qui n'existe plus du tout maintenant, et c'est tellement regrettable. Mais bref, donc mon père est arrivé, a été engagé en tant que soliste clarinettiste, puisque c'était son instrument fétiche. Et sur RTL, enfin Radio Luxembourg, RTL, tournait à l'époque avec le Grand Cirque de France ou le Radio Circus. Mon père est arrivé dans ce cirque par le biais donc de RTL. Il est tombé amoureux de ma mère et le résultat, c'est celui qui vous parle maintenant. Voilà. Et donc, ils se sont mariés de quelques temps après. Et donc, en même temps, donc je reviens à ce qu'avait fait mon père. Il avait fait des études, c'était un passionné de technologie et dans l'audio. Donc, il avait fait des études d'ingénieur électronicien, d'ingénieur du son. C'est lui, dans les années 60, qui a inventé le premier microphone réverbérant au niveau mondial, qui a eu un succès international, et il a commencé de développer ses premiers brevets. Ensuite, il a arrêté le cirque. Le côté musique a décliné au bénéfice du côté technique. Il s'est associé avec un des trois plus grands fabricants de haut-parleurs d'Europe. De 1963 à 1968, il a été leur directeur du labo de recherche. Donc ça, c'est ma période où on habitait à Paris. Et après, il en a eu marre. Donc, il a créé sa propre société qui s'appelait Redeco. Et donc, moi, je l'ai rejoint après mes études dans les années 75, par là. Et après, j'ai bossé mon vrai métier. En fait, je suis chercheur acousticien. Et pendant 30 années, donc jusqu'en 2001, on avait une clientèle internationale. On avait, alors c'est génial parce qu'on avait l'Opéra Garnier, la Scala, le Met à New York. On avait des artistes comme Didi Bridgewater, comme, bon, si je reste au niveau français, Higelin, Charles Licouture, etc., qui étaient nos clients, mais aussi des grands musiciens classiques comme Mazel, le chef d'orchestre, etc. Donc on avait une clientèle extraordinaire. On faisait les grands salons, on était invités pour faire des colloques au niveau international. On avait un des labos, les plus, laboratoires de recherche les plus performants au niveau européen. On a pu obtenir plusieurs dizaines de brevets dans le monde entier sur nos inventions au niveau des haut-parleurs, des enceintes. Et même à l'époque, dans les années 60-70, on était les seuls Français dans notre domaine à avoir même pu obtenir des brevets au Japon, ce qui à l'époque était exceptionnel. Bref, donc mon vrai métier, c'est ça. Mais avec toujours un côté artistique, puisque en même temps, on avait nos productions de haut-parleurs, nos recherches électroacoustiques, mais on avait une clientèle dans un milieu artistique aussi bien classique, jazz, variété, cinéma. On avait des clients à Hollywood, etc. C'était génial. Et quand notre manufacture et le laboratoire donc, ont cessé en 2001, de mes origines danoises, je ne pensais pas du tout au cirque. Hein. J'aimais beaucoup, et j'aime toujours beaucoup le design, notamment le design scandinave. Donc en 2001, j'ai fait une étude de marché nationale, donc en France, sur le design scandinave en France en 2001. Et il n'y avait rien du tout. Il y avait du design italien, un peu de design de tel ou tel pays, notamment des US, mais le design scandinave qui avait eu des années glorieuses dans les années 60-70 en France avait complètement disparu du marché. Et j'ai dit, ben tiens, là, il y a une occasion à prendre, il y a une porte ouverte à prendre. J'ai contacté des fabricants danois que je connaissais, de très bons, je ne peux pas citer les marques, mais enfin, c'est les plus belles marques scandinaves, dont la seule marque de luxe scandinave, entre autres. Et je suis devenu de 2001 à 2013, j'ai été directeur France, donc de ces deux ou trois très grandes marques danoises. Donc j'avais une équipe de commerciaux. Et alors là, ça a été une nouvelle découverte dans un univers que je ne connaissais pas en interne. C'est que j'ai eu une clientèle, comme j'avais des produits haut de gamme, j'ai eu une clientèle haut de gamme. Et j'avais comme clients qui sont devenus, après, et des connaissances et des amis, pour certains encore aujourd'hui, Ducasse, les frères, les trois gros, Anne-Sophie Pic, Jean Nouvel, l'architecte designer, Stark, etc. Et pareil, je me suis retrouvé à baigner dans un univers du design, mais toujours avec un côté artistique complètement génial. On avait une clientèle vraiment que les meilleurs magasins français. J'avais des grands comptes, j'avais des partenariats avec le centre Pompidou à Beaubourg. Enfin, franchement, ça a été 12 années formidables. Et puis, il y a eu la crise financière de 2010, par là, c'était à peu près dans les années 2010. Et puis, bon, ça commençait d'être un petit peu difficile. Donc, bon, je dis, bon, on reste là. C'était vraiment un côté, c'était devenu un petit peu une routine. Puis moi, je n'aime pas la routine. Il faut que ça bouge, il faut innover, il faut découvrir, j'aime le contact, le relationnel. Donc, on en était là avec ma société donc de design. Et Gilbert Grus, qui est un ami d'enfance, me téléphone et il me dit en 2013, écoute Joël, j'ai mes relations publiques, j'ai plus rien. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que ça t'intéresse de venir pour les relancer? Bon, j'ai un très gros carnet d'adresses et je croyais que c'était une blague. J'ai dit non, j'ai dit, tu te moques de moi, quoi. J'ai dit arrête, quoi. Il me dit non, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas des blagues, quoi. Et j'ai trouvé ça surprenant parce que j'ai fait le lien. Je suis né dans un cirque. Je fais une carrière internationale dans des domaines très riches de connaissances, de découvertes, etc. Et j'arrive, pas en fin de vie, j'espère, mais en tout cas, j'arrive, après avoir quand même pas mal roulé ma bosse, et on me réinvite à revenir dans l'univers du cirque. Et j'ai trouvé ça très beau. J'ai dit, le cercle est bouclé, j'ai trouvé ça très beau. Et j'ai pris le challenge à bras-le-corps, et j'ai dit, d'accord, je viens. Et donc, j'ai arrêté le design, et jusqu'en 2013, j'ai travaillé pour Gilbert depuis mon bureau à la maison. Et puis après, j'ai rejoint le cirque en 2014 et en 2015. Et puis après, donc fin 2015, quand c'était relancé, fallait que je revienne quand même chez moi parce que mon épouse ne m'avait pas suivi. On s'aime toujours très fort au bout de 30 ans de mariage, donc... Je dis ok, je reviens à la maison. Et puis donc j'étais réengagé, vu ce que je pouvais faire, donc j'étais réengagé dans un autre domaine de développement au niveau donc national avec une entreprise que je peux pas nommer, mais une entreprise nationale. Et c'est là que Francesco, comme j'ai dit tout à l'heure, m'a téléphoné et je suis monté à Paris. Et je n'avais pas encore vendu mon camping-car. Et j'en discute à ma femme. Je lui dis, mais écoute, regarde, c'est quand même génial. Les Bouglionnes repartent. Et ils me proposent de repartir avec eux. Le plus beau cirque qui est non seulement national, mais une réputation internationale. C'est génial. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, écoute, plutôt que de te relancer dans une nouvelle aventure dans l'entreprise qui te sollicite actuellement, tu as encore ton camping-car, va voir Francesco, fais le point avec lui, et puis si tu veux, continue au cirque. Et puis moi, je viendrai te rejoindre de temps en temps. Alors donc, comme déjà dit tout à l'heure, je suis monté à Paris, on a parlé avec Francesco, on s'est serré la main, yeux dans les yeux, et on a dit, c'est parti, on démarre ensemble. Et franchement, c'est une fierté et un grand plaisir d'être au cirque Bouglione sur la tournée.
Je crois que la boucle est bouclée, hein, du cirque au cirque.
Tout à fait. Oui, absolument. Là, c'est un parcours extraordinaire. Alors, est-ce que vous avez pris un bail là, pour plusieurs années ou vous faites déjà une saison et puis on verra après ou, je ne sais pas comment ça se passe avec les Bouglione, mais si après, s'il y a l'entente, si vous, je veux dire, c'est une confiance hein, qui reste et vous allez continuer.
Alors, j'ai toujours travaillé avec une relation de confiance, parfois à mon détriment. Je ne peux pas faire autrement que de travailler dans la confiance et j'ai une grande confiance avec les Bouglione. C'est un lien qui... Moi, les Bouglione, avant, je les connaissais en tant qu'artiste, en tant que... je ne les connaissais pas intimement. Et franchement, il y a un lien qui s'est tissé entre nous et vraiment, c'est le mot confiance, le mot amitié, j'oserais presque dire affection, qui s'est tissé entre nous. Moi, la retraite ne m'intéresse pas, je m'en fous complètement. Donc, si je peux bosser jusqu'à 70 ans, si ma santé le permet, moi, il n'y a aucun problème, je reste, je continue. Et puis après, on verra.
Et peut-être la dernière question, Joël. Donc, du coup, cette fonction, ce travail, ça vous plaît bien?
Bien sûr, c'est passionnant. Il se dit, c'est riche de contacts. La preuve, nous, on discute ensemble. Moi, je suis content de vous recevoir. Il y a un vrai partage. Et dans le cadre de mes partenariats et tout, j'essaye toujours d'établir un vrai partage avec les personnes. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut aller au-delà du professionnel. Mais j'ai toujours travaillé comme ça. Dans mes anciens jobs, c'était la même chose. Quand vous allez voir un Ducasse ou Anne-Sophie Pic ou Philippe Starck, tout le monde se baisse jusqu'à leurs chaussures. On est tous normaux. Je suis arrivé avec une relation au départ professionnelle. Mais après, je passe tout de suite à l'étape supérieure, c'est-à-dire pour tisser un vrai lien de sympathie. Quand le lien de sympathie est fait, c'est ça qui prime, c'est ça qui gagne. Et après, le travail, le côté professionnel, ça vient tout seul. Et et ça, c'est mon père qui m'a appris ça. Il m'a dit, il y a deux façons de travailler dans la vie. C'est bien ou c'est mal. C'est pas entre les deux, comme des fois où je m'en fous, allez, vas-y, ça passe. Non, c'est bien ou mal. Donc j'essaye toujours, évidemment, parfois on fait des erreurs, on se casse le nez, mais j'essaye toujours de travailler bien dans tout ce que je fais.
Et cette vie de vous étiez déjà un peu saltimbanque si vous aviez un camping-car, mais là elle est vraiment installée, ça vous va bien ?
Ah ben ça me va bien tout à fait, mais de toute façon, même dans mes anciens jobs, je voyageais beaucoup. Bon, sauf que c'était par avion, souvent, ou par train parfois, mais souvent par avion. Aujourd'hui, c'est par camping-car. Et l'autre jour, il y a un journaliste, ça m'a fait rire parce que finalement, je dois être un des rares à avoir un camping-car dans l'univers du cirque. Alors, il y a un journaliste, il me voit arriver avec le camping-car, il me dit « Mais vous êtes le camping-car le plus connu de France !» Ça m'a fait trop rire.
Je voudrais peut-être poser une dernière question à Joël. Alors, vous avez bien expliqué ce que vous faites, mais lorsque le spectacle est prêt à démarrer, avant, pendant, après, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, une première chose, mais ça c'est mon côté passion du cirque. Vous savez, quand on a arrêté le cirque dans les années 70, j'en ai tellement souffert. Il m'a fallu au moins 10 années pour m'en remettre. Et quand je suis ici et je suis au spectacle, je vibre avec les artistes. Les artistes ont le trac avant d'entrer en piste, j'ai le trac avec eux. Donc ça, c'est vraiment, mon cœur, il est dans la piste, mon cœur, il est avec les artistes. Ça, c'est, je ne peux pas faire autrement, c'est naturel, ça vient tout seul. Bon, maintenant, si je viens au côté professionnel, je suis là donc en costume pour accueillir les partenaires, pour accueillir les journalistes, les recevoir et parfois leur faire une visite guidée, leur faire découvrir l'univers Bouglione qui est complètement, c'est un cirque haut de gamme. Voilà, j'ai toujours travaillé dans le haut de gamme et si je suis venu aussi, c'est parce que c'est un cirque haut de gamme et il y a matière à expliquer, matière, et je suis passionnément heureux de pouvoir montrer les différences Bouglione. Quand vous avez le café du cirque à côté de nous, c'est unique au monde. Vous avez plus d'un siècle d'histoire en photo à l'intérieur sur les Bouglione. Il n'y a pas d'équivalent. Quand on va dans les coulisses et que je montre la loge de nos artistes féminins, aucun cirque n'a une loge comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment, on a des points d'exclusivité Bouglione que j'ai plaisir à expliquer et même passion à expliquer.
Dans l'ombre, mais passionné, il n'y a plus qu'un pas, vous auriez pu être un très bon monsieur loyal ?
Là, je ne réponds pas, je ne sais pas. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que dans mon camping-car, donc il est scindé en deux parties, c'est-à-dire j'ai mon bureau dans le camping-car, donc j'ai ma partie de vie, mais j'ai également mon bureau, donc je travaille à même mon camping-car.
Merci. Une dernière question ? Non. Merci Joël pour cet entretien très très intéressant.
Écoutez, merci en tout cas de me l'avoir proposé. Je suis très content de l'avoir fait avec vous. Écoutez, en tout cas, salutations aux auditeurs et à une autre fois. Avec plaisir.
Merci Joël. Só que eu já vou se dur. Olho estus ve diabo. Só que eu estu já vou se dur. Oh, só que eu estu mal. Só que eu já vou se dur.